Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, faire taire un journaliste, empêcher une enquête, des atteintes classiques à la liberté de la presse. Mais il existe bien d'autres façons d'empêcher les citoyens d'avoir accès à l'information. Distribution de journaux perturbés, ou bien, comme cela vient d'arriver en Bulgarie, antenne coupée. Des enquêtes ont été ouvertes contre la direction de la Radio Nationale Bulgare, une station publique, après une mystérieuse interruption des programmes. Pour les journalistes, il n'y a aucun doute, les politiques influencent les rédactions. La Bulgarie est en toute dernière place dans l'Union européenne, dans le classement mondial de la liberté de la presse de RSF, Damian Vodenicharov à Sofia.
5 heures d'interruption de programme, c'est du jamais vu. Résultat de l'interruption d'antenne le 13 septembre dernier, une enquête est ouverte par le parquet. Les services de renseignement s'emparent du dossier et le directeur de la radio nationale bulgare, Svetoslav Kostov, se retrouve sur la sellette. Très vite, le conseil des médias prend une décision drastique. La présidente du conseil, Sofia Vladimirova.
Cette interruption d'antenne d'environ 5 heures est sans précédent. On ne sait toujours pas pourquoi ça s'est produit. Les organes chargés de l'enquête ont nié toute raison technique pour l'arrêt de la diffusion. Il ne s'agit pas d'un cas de force majeure. Monsieur Kostov n'assume aucune responsabilité. Aucune de ces réponses ne nous laisse penser que cette interruption était nécessaire.
Le conseil des médias vote la démission du directeur de la station à l'unanimité quelques mois à peine après sa nomination. La coupure d'antenne a coïncidé presque exactement avec les horaires de l'émission de Sylvia Velikova, une journaliste spécialiste des questions de justice. Tout commence d'ailleurs dans cette affaire avec cette journaliste privée d'antenne. On est le 12 septembre. Sylvia Velikova est informée par le nouveau directeur de la radio nationale qu'elle ne pourra pas présenter son émission le lendemain. Elle reste incrédule.
Sans me donner de raison, le directeur général, nommé il y a quelques heures à peine, m'a dit que je ne pourrais pas me rendre sur le terrain pour une manifestation contre le candidat au poste de procureur général. Il m'a dit aussi que quelqu'un d'autre se spécialiserait sur les questions de justice et que l'émission que j'avais préparée pour le lendemain serait reprise par quelqu'un d'autre. Il n'a pas pu me dire pourquoi.
Pour Sylvia Velikova, c'est son ton très critique à l'égard du procureur général Sotir Tsatsarov et de son adjoint Ivan Guechev qui lui ont valu d'être privé d'antenne, notamment pour avoir pointé du doigt la candidature d'Ivan Guechev au poste de Sotir Tsatsarov.
J'ai bien eu l'impression que mes critiques concernant cette nomination ont agacé certaines personnes qui n'ont plus voulu m'entendre sur l'antenne jusqu'au vote.
En disant certaines personnes, vous visez Ivan Guechev ?
Justement, non. D'emblée, j'ai demandé s'il s'agissait de lui ou de son patron, Tsatsarov. Surtout que j'ai des relations tendues avec eux. Ils ne cachent pas le fait qu'ils ne m'aiment pas beaucoup. Ils préfèrent ne pas me parler quand ils le peuvent. Pourtant, ce ne seraient pas eux, mais 4 autres personnes qui auraient voulu m'écarter.
On ne sait rien de l'identité de ces 4 personnes qui peuvent écarter des journalistes à leur guise. Le directeur général de la radio nationale, Svetoslav Kostov, nie toute intervention de personnalité haut placée. En revanche, c'est bien le premier ministre Boyko Borisov en personne qui rétablit Sylvia Velikova à son poste.
Quand j'ai appris cette absurdité qu'on a concoctée, j'ai ordonné, j'ai demandé qu'on transmette un message à ce directeur. De ma part. L'exécutif ne fait que payer, mais je suis aussi président d'un parti politique. Je suis donc le chef de la majorité qui a approuvé la nomination du directeur de la radio nationale. Et s'il ne revient pas sur sa décision absurde, je vais demander sa démission à la majorité. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Ce sont des abrutis, voilà le mot exact. Comment est-ce qu'ils peuvent faire une chose pareille ?
Pas d'explication en tout cas de Svetoslav Kostov, que nous n'avons pas pu rencontrer malgré des demandes répétées.
Dans la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, il n'a peut-être jamais été aussi difficile d'être journaliste. Depuis la tentative de coup d'État de l'été 2016, les médias vivent à l'heure des purges. Des dizaines de journalistes ont été emprisonnés, des dizaines de médias fermés. Et le président turc a rejoint le club très restreint et peu enviable des prédateurs de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. En ce moment, le Parlement turc examine un projet de loi sur la liberté d'expression. Mais cela ne devrait rien changer. Poursuivis, emprisonnés, censurés, au chômage, les reporters locaux luttent pour leur profession. À Istanbul, c'est un reportage d'Anand Lauer.
Il arrive en retard et sans se presser au palais de justice d'Istanbul. Ses juges aussi sont en retard et eux non plus ne sont pas pressés. Cela fera bientôt 3 ans que Tunca Öğreten est poursuivi à cause d'un article. Un article dans lequel il révélait les activités pétrolières dans le nord de l'Irak du ministre de l'énergie de l'époque, Berat Albayrak, gendre du président Recep Tayyip Erdogan et aujourd'hui ministre des Finances. Pour cet article, le journaliste a passé 1 an en prison. Il se souvient, mi-choqué, mi-amusé, de son arrestation avant l'aube par la police antiterroriste un jour de décembre 2016.
Je dis à un policier quel est mon crime ? Appartenance à une organisation terroriste. Quelle organisation ? Il répond, est-ce que ça pourrait être le MLKP, le parti communiste, marxiste, léniniste ? Impossible, je ne suis pas communiste. Il enchaîne, alors faites-eux. Le mouvement de l'imam Gulen ? Impossible. Je suis athée. Il dit alors, allons au poste, on verra bien.
Avec 5 autres journalistes, Tunca sera finalement inculpé, entre autres, d'assistance à un groupe illégal d'extrême gauche. Il risque 20 ans de prison. En 16 ans de carrière, c'est la 23e fois que ce reporter est poursuivi pour son travail. Tous ces procès datent des 6 dernières années, depuis que le régime de Recep Tayyip Erdogan a pris un virage répressif. En Turquie, le journalisme est un métier à risque. Tunca fait une comparaison.
Pendant des années, j'ai été reporter de guerre. C'est un métier dangereux. Mais en Turquie, faire du journalisme est devenu encore plus dangereux. Quand vous couvrez une guerre et que vous entendez un tir de projectile, vous savez à peu près où il va atterrir. Mais quand vous écrivez un article en Turquie, vous ne pouvez jamais prévoir où cet article va vous mener. C'est la loterie.
Une loterie dans laquelle il n'y a jamais de gagnant. Mustafa Sönmez, journaliste économique depuis près de 40 ans, n'avait aucun moyen de prévoir qu'un message sur Twitter le mènerait au tribunal. Il commentait une dépêche de l'agence Bloomberg racontant la panique des banques face à l'effondrement de la livre en août 2018. Depuis le mois dernier, Mustafa Sönmez est jugé avec 5 autres journalistes, dont les auteurs de la dépêche et 32 internautes. Ils sont accusés d'avoir cherché à déstabiliser l'économie turque.
C'est un procès politique. L'objectif est de nous faire taire, nous, les journalistes et internautes, puisqu'il est bien sûr impensable qu'un tweet ou un article puisse secouer l'économie turque. Ce procès complètement absurde n'aurait jamais dû voir le jour. Malheureusement, le pouvoir politique a pris le contrôle de la justice. Il fait ouvrir aux juges tous les procès qu'il veut. Il fait écrire aux procureurs les actes d'accusation qu'il veut.
La marge de liberté des médias en Turquie s'est nettement rétrécie depuis le coup d'État manqué de juillet 2016 et 2 années d'état d'urgence. Selon la plateforme P24, qui tient à jour un recensement, 127 journalistes sont actuellement incarcérés. Le pays occupe la 157e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse établi chaque année par Reporters sans frontières. Malgré ce tableau noir, le parti au pouvoir affirme vouloir renforcer la liberté d'expression avec une proposition de loi débattue en ce moment par le Parlement turc. Le représentant local de RSF, Erol Önderoğlu, fait partie des sceptiques.
Le pouvoir affirme que la critique et le travail journalistique ne seront pas criminalisés. C'est en fait une initiative trop limitée pour réparer les dégâts de la décennie écoulée. On ne peut pas s'attendre à un changement profond tant que la réforme ne s'adressera pas au vrai problème, le manque d'indépendance de la justice en Turquie.
Poursuivi, emprisonné, censuré, au chômage, les journalistes turcs vivent des jours difficiles. Rares sont ceux qui peuvent travailler en toute indépendance dans un média local. L'ouverture, ces dernières années, de services turcophones au sein de grands médias publics européens leur offre une bouffée d'air et une forme de protection. Tunca Öğreten, incarcéré pendant 1 an, travaille désormais pour le service turc de la Deutsche Welle allemande.
Contrairement à un média local, vous ne pouvez pas couler financièrement un média public international. Vous ne pouvez pas bloquer l'accès à son site internet, à moins de vous créer des ennuis avec les autorités du pays en question. Vous pouvez vous en prendre à ces journalistes, mais ce n'est pas du tout la même chose d'emprisonner un journaliste travaillant pour n'importe quel site d'information turc et d'emprisonner un journaliste qui travaille pour la Deutsche Welle ou la BBC en turc.
Peut-être être un peu plus protégé, mais surtout un peu plus surveillé que les autres. En juillet, un think tank proche du pouvoir a publié un rapport détaillant les activités sur les réseaux sociaux de dizaines de journalistes turcs travaillant pour des médias basés à l'étranger. Un rapport dont la forme ressemblait à s'y méprendre à un acte d'accusation.
Il y a des journaux qui n'arrivent jamais. Le mois dernier, Reporters sans frontières a publié un rapport très complet sur les entraves à la distribution de la presse. Dans 2 cas sur 3, les auteurs des entraves sont les États et les gouvernements. 4 fois sur 10, les 4 censures se produisent au moment de la vente. Pour RSF, tant qu'il n'est pas parvenu dans les mains de son lecteur, un journal reste vulnérable. Et l'imagination des prédateurs infinis. Pauline Adès-Mével est responsable Union européenne et Balkans à RSF. Elle est l'invitée d'Accent d'Europe.
En Europe, par exemple, en Pologne, et c'est un exemple que nous mentionnons dans le rapport sur la distribution, le parti au pouvoir, en fait, est suivi par un certain nombre de journaux pro-gouvernementaux, bien sûr, qui sont alignés sur la ligne du parti Droit et Justice. Et évidemment, pour le pouvoir, il s'agit de les favoriser et de les mettre en évidence pour que les acquièrent dans les kiosques. Alors, une des façons de faire, par exemple, qui a été choisie en Pologne, c'est de priver les journaux d'opposition de leur visibilité sur les étalages des kiosques. Donc ça a été fait de façon à mettre en avant d'autres journaux qui sont plus dans la ligne du gouvernement. C'est un des exemples. Il y en a aussi dans les Balkans. On a vu, par exemple, à l'aéroport de Belgrade, que des journaux pro-gouvernementaux, une fois encore, étaient favorisés au détriment de journaux anti-gouvernementaux indépendants comme Danas, par exemple, qui sont très très distribués, en fait, dans le pays. Mais les salons de la compagnie Air Serbia ont préféré les bloquer, arrêter certains abonnements à certains moments, arguant de certains problèmes de distribution qui, en fait, n'en étaient pas. Il s'agissait de mesures politiques.
Et puis, il y a le cas du Kosovo. Alors, là, c'est toute une population qui est privée de la presse écrite dans sa langue natale.
Absolument. Au Kosovo, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un boycott de produits serbes. Il y a des problèmes entre le Kosovo et la Serbie depuis longtemps qui se poursuivent. Et aujourd'hui, il y a des mesures, en fait, de boycott sur des produits dont les journaux. Ça veut dire que la population de langue serbe au Kosovo, parce qu'il y a aussi une partie qui parle l'albanais, ne peut plus recevoir, ne peut plus lire les journaux qui étaient auparavant distribués. C'est une mesure de rétorsion. Et ça, c'est surprenant parce que on ne le sait pas forcément. Il s'agit pas seulement de denrées comestibles, de produits de consommation courante, mais les journaux sont affectés.
C'est un boycott ou c'est une taxe douanière qui a été rajoutée ?
Alors, il s'agit d'une taxe douanière qui finalement se solve comme une privation pour le lectorat sur place.
Souvent, ça se passe avec l'argent. C'est ce qui se passe également à Malte, qui est un pays qui connaît beaucoup de difficultés sur la liberté de la presse. Et là, c'est l'argent du papier, finalement, qui empêche les lecteurs de pouvoir lire leurs journaux.
Absolument. C'est un des problèmes qu'on connaît moins à Malte, bien sûr, parce que le meurtre d'une journaliste d'investigation a un peu occulté d'autres problèmes. Mais effectivement, il y a un industriel qui détient, en fait, une société de papier et qui s'est arrangé pour faire en sorte que des journaux ne puissent plus acquérir ce papier qui est vital pour l'impression et la distribution. Et donc, on a privé le lectorat de certains journaux. Alors, en fait, pour éviter ce problème, des journalistes, comme la fondatrice d'un média d'investigation qui s'appelle The Shift, a lancé un journal en ligne qui fait état de ce qui se passe à Malte et qui, en fait, permet au lectorat d'avoir connaissance de certains problèmes.
Pauline Adès-Mével de Reporters sans frontières. En Russie, le plus vaste pays au monde, la livraison des journaux est particulièrement complexe. Pour assurer la diffusion des abonnements de presse, la poste russe doit relever un authentique défi logistique et ça coûte cher. Auparavant, la poste pouvait compter sur une aide financière de l'État. La disparition en 2014 de cette subvention de 3,5 milliards de roubles, l'équivalent de 50 millions d'euros, a des conséquences sensibles sur le secteur de la presse. En quelques années, le nombre d'abonnements s'est effondré, Étienne Bouche.
Jusqu'à 2014, il se distribuait en Russie 1 milliard de titres de presse par abonnement. Aujourd'hui, ce nombre a été quasiment divisé par 2. Dans un pays avec de telles distances, livrer la presse n'est pas rentable. C'est pourquoi la Poste est contrainte d'augmenter ses tarifs. Et c'est pour cette raison qu'une subvention de l'État est nécessaire.
Alexandre Oskin est le représentant de l'Union des imprimeurs en charge de la diffusion de la presse. Son constat est sans appel. La suspension de cette aide étatique à l'acheminement des journaux a eu un effet sensible sur le secteur. Un secteur qui est loin de se limiter aux 5000 publications fédérales. La Fédération russe compte 85 entités territoriales, chacune ayant ses journaux et magazines régionaux. Ce sont environ 45 000 titres de presse qui sont officiellement enregistrés. Dans un pays où certaines régions sibériennes font la taille de plusieurs États européens réunis, la diffusion de la presse écrite est particulièrement coûteuse. En l'absence de subventions, la Poste russe a multiplié ses tarifs par 3. Les entreprises de presse ont logiquement été contraintes de faire grimper leurs prix. Plus 200% depuis 2014. Un investissement trop important pour une population appauvrie par la crise. Résultat, les ventes de journaux dégringolent, fragilisant un secteur qui subit déjà une érosion générale de ses tirages et une chute des revenus liés à la publicité. En raison de ses caractéristiques géographiques, la Russie fait figure d'exception en Europe puisque le prix des journaux par abonnement y est plus élevé que celui à l'unité. Pour les éditeurs, les revenus tirés des abonnements sont considérables et constituent souvent l'essentiel du chiffre d'affaires. L'Union des imprimeurs est parvenue à annuler l'augmentation prévue début octobre du taux de TVA sur la presse, mais elle anticipe, si rien n'est fait, la disparition de nombreux titres devenus déficitaires.
The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected.
Brexit at Halloween.
Le gouvernement britannique espère encore faire adopter son accord de Brexit au pas de charge. Mais encore une fois, il faut passer l'obstacle du Parlement et les heures historiques que vit le Royaume-Uni s'éternisent. Les Britanniques appellent ça la Brexit fatigue. Les Néerlandais, grands partenaires commerciaux du Royaume, commencent eux aussi à s'épuiser. À Amsterdam et à La Haye, on parle de Brexit mou, Antoine Moutot.
Comme si elle regardait un feuilleton américain ou une telenovela tous les jours depuis maintenant 3 ans, nombreuses sont les entreprises néerlandaises qui aimeraient désormais changer de chaîne. Alors que les négociations à Bruxelles ont débouché sur un nouvel accord, ce dernier doit encore être adopté par le Parlement britannique. Et face à ce suspense permanent, depuis quelque temps, les Néerlandais semblent avoir ajouté une nouvelle définition à leur vocabulaire. Brexit mou, en français fatigué du Brexit, est une expression de plus en plus répandue dans le monde néerlandais des entreprises. Depuis longtemps, la perspective d'un Brexit dit dur ou même doux, d'ailleurs, angoissait énormément les sociétés néerlandaises. Pour les Pays-Bas, grand exportateur par excellence, le Royaume-Uni est un partenaire économique de premier plan. Selon le CBS, l'Institut néerlandais des statistiques, les exportations vers le Royaume-Uni représentaient l'an dernier environ 25,5 milliards d'euros, 3,3% du PIB néerlandais. Pour les Pays-Bas, le Royaume-Uni est ainsi le deuxième pays d'exportation, juste après le voisin allemand. Pour l'instant encore, lorsqu'un producteur néerlandais de légumes envoie sa marchandise, peu importe que ce soit vers l'autre côté des Pays-Bas ou au fin fond du Pays de Galles, cela revient au même. Mais avec le Brexit, les entreprises craignent d'éventuelles files d'attente aux abords des grands terminaux de ferry, comme celui de Hoek van Holland, près de La Haye, ou d'IJmuiden, près d'Amsterdam. Beaucoup de paperasse et des temps d'enregistrement plus ou moins longs. En cas de non-accord, la perspective du retour de droits de douane et de réglementations plus strictes en font trembler plus d'un ici. Le manque d'informations et du gouvernement néerlandais à La Haye et du gouvernement britannique à Londres commence sérieusement à dégoûter les entrepreneurs. Le mois dernier, en coopération avec une grande organisation patronale et celle des moyennes et petites entreprises, la radio d'information BNR publiait une enquête sur le sujet. À la question « À quel point les incertitudes autour du Brexit vous fatiguent-elles ?» sur une échelle de 0 à 10, les 300 entrepreneurs interrogés ont en moyenne répondu 8 sur 10.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site internet rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.